dit sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Trait d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL 101,5, Montréal.
Vivre Montréal,
Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105, au cœur de Montréal.
Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim.
Il est midi.
CIBL
105.
Bonjour, ici François Morin. Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'impact écologique de l'industrie de l'entretien du textile. C'était long, ça. Et comment une start-up vise à perturber ce secteur avec des solutions de nettoyage éco-responsables et durables. Pour ce faire, nos invités aujourd'hui sont Jessica Lahaye et Sébastien Témoin, les cofondateurs de Oh My Load. J'espère que je le prononce comme il faut. Ces deux entrepreneurs ont été accompagnés par la base entrepreneuriale du HEC Montréal. Puis important de souligner que la base, c'est un partenaire de contenu, un nouveau partenaire de contenu de l'émission. Enfin, en raison de la qualité supérieure de leurs services et leur approche éco-responsable, Oh My Load s'est vu confier récemment la collection du Grand Costumier. Cet organisme de renom a hérité de la collection de costumes de Radio-Canada et bien d'autres théâtres à Montréal, riche de plus de 120 000 pièces. Super belle reconnaissance pour cette start-up. Jessica et Sébastien, bienvenue à Intention Inc. Je suis très heureux de vous avoir avec moi au micro aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Jessica et Sébastien, avant d'échanger sur les différents aspects de votre projet entrepreneurial, pouvez-vous vous présenter brièvement le milieu dans lequel vous avez grandi, votre parcours académique, votre parcours professionnel, afin qu'on en apprenne à mieux se connaître durant la rencontre?
Commence. Oui. Donc moi, en fait, vous le voyez tout de suite à mon accent, moi je suis français, je suis arrivé au Québec en 2009. J'ai fait mes études en Angleterre, bac en finance, MBA en administration. Et puis, je suis retourné ensuite en France où j'ai travaillé 4 ans pour un établissement bancaire. J'étais chargé de compte professionnel. Donc, j'avais des entrepreneurs en face de moi. Puis, le monde bancaire est ce qu'il est. Donc, on a plutôt tendance à dire non à des rêves entrepreneuriaux plutôt que les accompagner. Donc, non, ça avait tendance à m'enlever toute mon énergie. Donc là, à un moment, je me suis dit, OK, il faut que ça change. J'ai fait ma résidence permanente. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé au Québec.
Ce qui se faisait à l'époque, hein? Tu peux faire ta résidence permanente à partir de la France et venir ici.
Bon. Ça prenait 8 mois.
Ça prenait 8 mois, ce qui n'est plus possible maintenant.
Ben maintenant, ça prend. Il y en a qui sont 6 ans plus tard encore, okay. Alors qu'ils habitent ici. Donc.
Et toi, Jessica?
Moi, je suis une Québécoise pure laine, okay. Comme on dit. Donc, je suis née ici, j'ai fait mes études en soins infirmiers, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais ça a toujours été un désir en moi. Donc, on pourra peut-être en parler plus tard, là, mais moi, c'est sûr que ça a été vraiment les sciences de la santé qui m'ont guidée jusqu'ici. Okay.
Puis, ce que je comprends, parce qu'on a parlé évidemment avant l'émission, vous êtes des partenaires d'affaires, mais vous êtes également des partenaires de vie, c'est ça?
Oui.
Exactement.
Puis, comment vous êtes rencontrés?
Au travers de notre emploi précédent.
Okay.
Donc, on s'est rencontrés, c'est ça. En fait, j'étais gestionnaire dans le réseau de la santé.
Okay.
Puis, Jessica était infirmière, puis on s'est rencontrés... professionnellement d'abord.
OK.
Et puis, on est devenu un couple.
OK.
Oui.
Un peu comme moi. Moi, j'ai rencontré ma femme avec qui je suis depuis toujours au travail.
OK.
On vous souhaite longue vie.
Ça se fait beaucoup.
Oui.
Merci.
Maintenant, on va parler de Oh My Load. Au départ, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur? Toi, Jessica, tu nous as dit tout à l'heure, tu avais ça dans la tête. Tu as fait allusion à ça, à Sébastien, mais c'est quoi le... Ça a toujours été un rêve pour vous ou c'est...
En fait, Oh My Load, c'est notre histoire. Sébastien a un enfant, j'ai 3 enfants. Donc, tous les deux, on en a 4. Ça fait beaucoup de lavage.
OK.
On avait des emplois très, très chargés, occupés. Puis, on a voulu impartir notre corvée de lavage. Puis, on a fait le tour des nettoyeurs. Puis, on ne trouvait pas. En fait, tout le monde me disait, non, non, on ne peut pas prendre ça. Donc, on comprenait pas pourquoi. Puis, on s'est mis à chercher. Puis, on a trouvé, en fait, qu'il n'y avait pas la technologie adaptée pour pouvoir prendre le linge quotidien,
okay.
Premièrement. Puis, en faisant nos recherches, on a vu, en fait, qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la durabilité de la solution. Donc, c'était très, très polluant pour en parler. Mais c'est vraiment ça qui nous a... En fait, la genèse, c'est vraiment qu'on a voulu impartir notre corvée de lavage, puis on n'a pas trouvé de solution, donc on l'a créé.
Mais toi, tu voulais-tu devenir, avant même ça, là, est-ce que tu voulais devenir entrepreneur, Jessica? Tu as fait allusion à ça tout à l'heure, mais...
Oui, ben en fait, pendant le congé de maternité de ma dernière, de ma fille, j'avais parti une petite entreprise de couture, donc ça a toujours été un désir de débuter quelque chose, puis d'être propriétaire moi-même là, de mon entreprise.
OK. Puis toi, Sébastien, un rêve?
Ben, c'est un appel, en fait, on répond. Là. Parce qu'on aurait pu s'arrêter à se dire, bon, ben, les nettoyeurs ne veulent pas de notre corvée de lavage, on s'arrête là. Non, on s'est dit, ben, on va monter la solution. Donc oui, non, ça a toujours été en moi. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs, finalement, on a vendu des choses quand on était jeune, on avait des sites web, avait, okay. Comme beaucoup. Là. Donc oui, ça fait partie de moi. Pourtant, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Je pense même que je suis le seul actuellement. Donc non, mais c'était en moi.
OK. Ouais. Alors, c'était la corvée de lavage qui était le point de départ du projet Oh My Load. Question pour toi, Sébastien. Je crois qu'en France, c'est commun, ça, non, d'avoir des services de buanderie qui acceptent tous les vêtements ou...
Ben, en fait, on a les nettoyeurs à sec en France s'appellent des pressings. C'est pas un service qui est si commun que ça en Europe.
Okay.
On est plutôt vraiment dans du nettoyage à sec assez haut de gamme, pressing en Europe. Par contre, aux États-Unis, oui, le wash and fold là est quelque chose d'assez commun. Il y a beaucoup de gens qui impartissent leur corvée de lavage.
OK. Ouais. Puis, Oh My Load, le nom vient de où?
Ben, en fait, on avait des discussions, Sébastien et moi, sur le nom, puis on aime beaucoup l'humour. Puis c'est parti, en fait, d'une idée de faire un jeu de mots. Puis Sébastien me disait, oh, ça serait... Quand on a beaucoup de lavage, on dit, oh my God, on en a donc du lavage. Mais en fait, c'était aussi pour qu'à chaque fois qu'on arrive avec nos sacs de linge qui sont propres, pliés, que les gens fassent, oh my God, ou oh my Lord, comme on dit okay. En anglais. Ils sont là, ils sont arrivés.
Ils quand j'ai entendu ce nom-là, ça me ramenait en arrière. Dans mon ancienne vie, comme toi, Sébastien, j'ai travaillé dans l'industrie bancaire. Mm-hmm. Puis j'étais haut placé, puis je m'occupais du Québec, puis des provinces atlantiques. Puis l'expression « Oh my Lord », c'est commun là, au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, tous ces coins-là. Ça me dit « Mais ça vient-tu de là? » Là, je comprends un peu mieux là, d'où la racine du nom. Mais pourquoi en anglais?
Ben, c'est sûr que nous... T'sais, on travaille en français, le siège social est au Québec, mais je considère qu'une entreprise qui a des ambitions de développement, ça va dépasser les frontières du Québec. Puis le reste de l'Amérique du Nord est quand même anglophone. Donc si on regarde un peu notre vision à 5 ans, on dépasse les frontières.
Puis derrière cette entreprise-là, c'est quoi l'opportunité que vous perceviez? Là? C'est quoi le problème que vous vouliez solutionner avec Oh My Load?
Ben, c'est qu'au début, là, on était vraiment sur la corvée de lavage, la charge mentale. On s'est dit, on va travailler là-dessus pour aider des gens à finalement avoir plus de temps. C'est sûr que quand on a commencé à fouiller sur les processus qui sont actuellement entrepris pour nettoyer les textiles par les nettoyeurs à sec, là, il y a le volet vraiment environnemental qui est apparu. Puis on a commencé à pousser vraiment sur le développement durable. Donc c'était vraiment allonger la durée de vie des textiles, réduire les ressources nécessaires pour nettoyer les textiles. Ça, c'était vraiment la prémisse. On s'est rendu compte que finalement, la majorité des consommateurs sont encore sur la corvée de lavage, la charge mentale. Mais c'était ça, c'est vraiment le développement durable.
Parce que je comprends, la technologie, on pourrait en parler, comment vous avez trouvé cette technologie-là, mais ça consomme beaucoup moins d'eau qu'une buanderie traditionnelle. Même quelqu'un qui ferait sa propre corvée à la maison, ça se peut-tu?
Oui, environ 30 % moins d'eau qu'une laveuse traditionnelle, par kilo de linge lavé.
OK.
Parce qu'on a quand même des grosses machines. Et à peu près 70 % moins d'eau qu'un nettoyant sec.
OK. Puis, parce qu'on avait parlé avant, vous récupérez des microplastiques, je crois, dans votre dans votre procédé? Parlez un peu de ça, parce que c'est fascinant, ça.
Ouais. Ben, en fait, on a été chercher une technologie qui est en Europe. C'est des filtres à microparticules de plastique qui s'installent à côté de notre laveuse. Puis, à chaque fois qu'on fait une brassée, on est capable de récupérer...
98%.
Oui, 98% des microparticules de plastique. Donc, ça représente, à tous les 5 lavages, une carte bancaire en poids plastique.
C'est énorme. Quand j'ai lu ça, puis j'ai lu également dans votre littérature, sur votre site Internet, je crois, qu'un des fleuves les plus pollués en termes de microplastique, c'est le majestueux fleuve Saint-Laurent.
Oui.
Je la comprends pas, celle-là, mais c'est-tu principalement dû au lavage qu'on fait?
Ben, on utilise beaucoup quand même de polyester en Amérique du Nord, puis on a tendance à rejeter ça dans l'aqueduc, vu que les systèmes de filtration de microparticules de plastique sur les laveuses, ça est devenu une obligation en Europe. Là.
C'est un standard. Là,
ça s'en vient, oui. Okay. Je pense qu'ils ont 3-4 ans, et puis c'est Samsung, LG, c'est toutes ces marques-là qui vont devoir mettre ça directement sur les laveuses. Ici, on rejette ça dans l'aqueduc. Donc, c'était dans un échange avec Concertation Montréal où nous avons indiqué, ben justement, il y a eu des reportages sur le Saint-Laurent et c'est un des fleuves les plus pollués au monde en termes de microplastique.
Lorsqu'on boit de l'eau qui est évidemment qui sort de nos systèmes de filtration, est-ce qu'on retrouve ces microplastiques-là ou on...
J'ai pas d'idée là-dessus.
Parce que c'est refiltré et tout ça, ouais, est-ce qu'ils réussissent à le...
On espère que non.
Ouais, ça, j'espère.
L'autre élément que j'ai compris aussi de votre technologie, c'est que vous n'utilisez pas de... Comment vous appelez ça?
Perchloroéthylène.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de solvant à base de qui vient du pétrole, je crois. Là, ouais. C'est ça?
C'est un dérivé de pétrole, en fait. Ben, c'est en fait, dans le dry cleaning, là, c'est ça qu'on utilise. On utilise des solvants qui sont dérivés de pétrole, qui ont une densité qui est inférieure à l'eau. Donc, c'est ça qu'on appelle le nettoyage à sec. C'est que ça ne rentre pas dans la fibre textile. Très bon pour détacher tout ce qui est à base de graisse, mais ça reste un dérivé de pétrole. Puis ça a été interdit, notamment en France, je pense au Danemark, dans certains États des États-Unis. Le perchloroéthylène a été interdit il y a 10 ans, parce que c'est réputé cancérigène.
Okay.
Sauf qu'ici,
c'est librement utilisé. Parce que lorsqu'on va porter nos vêtements chez nettoyeurs, on les ramène, il y a une petite senteur. Hein?
C'est ça.
Puis vous le portez sur la peau après.
OK. Alors, c'est ce que j'ai lu après là-dessus. Je suis allé fouiller. C'est pas très, très, très bon pour la santé. Hein? C'est cancérigène au bout, comme on dit. L'autre élément on parlait de corvée au tout début. Ça représente combien de temps une famille qui fait son propre lavage, donc une famille de 4 enfants ou comme la vôtre? On parle de combien d'heures dans une année donnée à faire. Du lavage, du pillage.
On dit une famille moyenne, c'est 150 heures par année. Donc, ça représente un mois en temps de travail de corvée de lavage. Pour nous, on est 6 à la maison, donc c'est plus que ça.
Six mois.
C'est des belles vacances.
On est plus à un mois et demi, deux mois là, chez nous. Okay. Oui, c'est énorme, en fait. C'est sûr que laver, ça ne prend pas de temps en soi. C'est le pillage.
OK. Ah, c'est vrai que le pillage, c'est long. Moi, c'est là-dessus que j'ai accroché. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais ça énorme. Là, ouais. 150 heures. Puis il y a deux choses que j'ai haï faire dans la vie. C'est le trafic, être pris dans le trafic, puis faire la corvée de lavage, puis le pillage. Ça me rend fou. C'est comme des heures qui sont perdues.
Mais c'est marrant parce qu'on commence notre pitch comme ça. 150 heures, c'est le temps. Donc, oui, on commence. C'est notre accroche.
Puis... Là, on sait que vous avez une technologie, on comprend un peu mieux ce que c'est au MyLoad, mais c'était quoi Là, vous avez dit, là, on part cette entreprise. C'était quoi les premières étapes du démarrage de au MyLoad?
Ben, en fait, comprendre comment ça fonctionne, parce que nous, comme on le disait au début, on n'est pas issus du tout de cette industrie-là. Donc, il a fallu... par contre, on est bon pour fouiller. Donc, on a retourné Internet, on a lu énormément de choses pour comprendre déjà, premièrement, pourquoi les nettoyeurs... s'intéresse seulement à 3% de nos besoins textiles. Les chemises, les complets, les manteaux, puis en gros, on a fait le tour. Alors que le 97% du vrai textile qu'on porte à tous les jours, il ne le couvre pas. Donc, il a fallu qu'on fouille là-dedans.
C'est quoi la raison?
C'est parce que les machines utilisées pour le nettoyage à sec ne sont pas du tout adaptées pour faire de la buanderie.
Okay.
Donc là, l'opportunité, elle est là. Puisque le perchloroéthylène a été interdit en Europe depuis à peu près 10 ans, bien, les manufacturiers ont construit des technologies pour le remplacer. Et les technologies qui ont été développées sont très applicables à la fois pour remplacer le nettoyage à sec, mais aussi pour faire de la buanderie.
Okay.
Donc, on a été chercher ça.
mais vient avec cette technologie quand même. Il faut qu'il y ait un savoir-faire. Puis, on a été chercher une troisième associée, qui est Pascale Allaire, meilleure ouvrière de France en entretien textile. Donc, elle nous amène vraiment le savoir-faire.
Comment vous êtes allé à chercher? Moi, je trouve ça toujours incroyable, ces histoires de meilleurs travailleurs de ci, de ça en France. Je trouve ça formidable. Comment vous l'avez trouvée, cette femme?
On a un ami qui s'appelle LinkedIn. C'est ça, on vit quand même à une époque où même eux, enfin, tu sais, les meilleurs ouvriers de France, c'est aussi un label, c'est-à-dire que ça les aide à faire de la consultation, à faire de l'enseignement. Puis ça fait partie aussi de leur mission, donc c'est quelque chose de public. Donc on a été sur LinkedIn, on a trouvé Pascale, on lui a écrit. Puis Pascale a dit, ben oui, je veux vous voir.
Puis, vous l'avez appelé?
Oui.
Vous avez expliqué qui vous êtes. C'était quoi la suite?
Ben là, en fait, on a commencé à se dire, bon, ben, regarde, voilà ce qu'on veut faire. Puis il a fallu un petit peu donner, ça va être quoi la superficie d'un local? Ça va être combien de machines? On a commencé à construire, en fait, nos processus. Parce qu'il y a quand même, c'est pas simple, en fait, à construire un atelier, en fait, de nettoyage comme le nôtre. Donc, ça a pris un bon 6 mois à peu près de discussion. On a rencontré les fournisseurs, on a rencontré... il y a aussi toutes les lessives. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez important.
OK. Puis, là, vous avez commencé à... Là, l'habitude ici au Canada ou est toujours en France?
Allez, en France pour l'instant. Okay. On est dans un processus d'immigration. Mais c'est une famille de 5, là, donc okay. Ça prend du temps.
OK. OK. Puis, là, il fallait acheter des machines, c'est ça? Ces machines-là ne viennent pas d'ici, j'imagine? Elles viennent d'ailleurs ou c'est quoi le...
Ouais, on a quand même... Oui, elles sont importées... en fait, c'est franco-espagnol comme marque. Puis, elles sont fabriquées aux États-Unis et importées ici au Québec. Il y a un très, très gros fournisseur qui s'occupe... la majorité du Canada est au Québec. C'est un distributeur, en fait, de nos machines. Donc, on a tout vu avec lui. Là, puis, on a construit notre atelier.
Ouais. OK. Et puis, OK, mais c'est une chose d'acheter des machines, vous avez trouvé un associé, vous avez trouvé des... Là, il faut se trouver un local, non? Comment ça a commencé, ça?
Ah, le local...
Ça a été toute une aventure.
En fait, il n'y avait plus rien post-pandémie, là, ça a été difficile, surtout que nous, on avait besoin... C'était un 3000 pieds carrés, donc c'est à la fois petit et à la fois grand. Donc, ça a été un défi. Puis finalement, on a trouvé à Boisbriand, parce que nous, on fait cueillette et livraison, il fallait que ce soit proche des autoroutes, donc idéalement placé. Mais non, on a été content de le trouver, parce qu'on a mis du temps.
Là, ça fait combien de temps que vous êtes en opération? C'est...
5 mois.
5 mois.
On est des bébés.
OK. OK. Puis, comment vous faites trouver des clients? C'est quoi la démarche?
C'est moi qui vais répondre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 5 mois, donc on a effectivement commencé à rentrer pas mal de clientèle. 75% à peu près, c'est du B2B. Donc, c'est directement avec des entreprises pour leurs propres besoins.
Okay.
On a des sites hôteliers, on a notamment parlé tout à l'heure du grand costumier. Donc, c'est pour leurs propres besoins opérationnels. Puis, on commence à avoir de plus en plus aussi de dépôts et de points de dépôt directement dans les bureaux d'avocats, bureaux de consultation. Donc là, ça concentre aussi la logistique. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que là où on perd nos marges, c'est dans les coûts logistiques. Et on a commencé depuis à peu près un mois vraiment à démarcher les en B2C, donc du particulier,
okay,
sur la rive nord, parce que nous, on est à Boisbriand, donc sur la rive nord, via les plateformes Meta. Donc ça, c'est de la publicité très standard.
OK, alors c'est Facebook, c'est tous ces services-là. Okay. Oui.
Puis pour plutôt les entreprises, c'est de la mise en relation. Okay. Sauf que nous, avec l'accélérateur HEC Banque Nationale, on est aidés à ce niveau-là.
Okay.
Ça nous aide beaucoup.
Puis parlons de ça, parce que là, vous aviez un projet, vous avez fait de la recherche, vous avez ciblé une personne pour vous aider dans les procédés, vous avez ciblé des technologies pour vous aider à faire ce que vous avez à faire, mais vous avez été accompagné par... Comment ça s'est fait? C'est vous qui les a approchés ou c'est...
Oui, en fait, c'est nous qui les a approchés. Moi, j'étudiais à HEC à temps partiel, puis j'ai vu passer dans mes courriels la base entrepreneuriale qui recrutait, puis il nous restait 2 jours pour appliquer.
Okay.
Puis j'en ai parlé à Sébastien, puis j'ai dit, oh, ça pourrait être intéressant, être accompagné, tout ça, parce qu'on est encore dans une phase d'idéation. Puis on a appliqué, on s'est lancé, on a fait une petite vidéo, puis on a été sélectionnés. On l'a su la semaine suivante, on a été sélectionnés, puis on était tous surpris de ça, mais okay. On était très contents. Puis on est rentré dans le programme Entreprisme, qui ont, eux, ils ont vraiment une volonté, en fait, au niveau de l'impact. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça ait un impact, un projet d'impact social ou environnemental,
okay.
Ce qu'on répondait. Puis on a été accompagnés pendant 6 mois dans Entreprisme. Puis on est passé d'une idée à un vrai projet d'entreprise avec un modèle d'affaires,
okay.
Avec vraiment un plan stratégique, okay. Pour la...
Mais toi, Sébastien, tu as travaillé comme consultant jadis, je crois.
Oui, oui.
Pourquoi vous sentiez le besoin d'approcher un accélérateur ou un incubateur pour votre projet? Parce que tu as un MBA, tu as travaillé en finance, tu as toute l'expertise nécessaire pour le faire solo, mais vous avez cru bon de travailler avec la base entrepreneuriale du HEC Montréal.
Je me suis rendu compte, en tant que consultant, que j'étais bon pour conseiller les autres, mais soi-même, c'est toujours un petit peu plus délicat. Manque de recul, en fait. Puis, il y a toujours cette question, on lance notre idée, on se dit comme... Déjà, premièrement, pourquoi ça n'existe pas? Peut-être que s'il n'y a pas de marché, on s'attaque quand même à un gros marché de particuliers. Tout le monde peut être client, les clients particuliers, toutes les entreprises. Donc, on a besoin d'aide là-dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on a postulé à HEC, puis que, enfin, à travers de l'incubateur, et puis qu'on a été pris, on s'est dit, OK, là, c'est vrai. C'est devenu, en fait, une vraie entreprise avec le stamp de, OK, vous êtes pris au sein de la base.
OK.
Ouais. Parce que quand on débute, nous, on a toujours la meilleure idée, on se dit, ah, on a vraiment l'idée du siècle, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui approuve, qui dit, oh oui, vous avez vraiment une bonne idée, en fait, là, c'est là qu'on réalise que ça peut être vrai. Tout ça.
Puis quand vous avez fait votre, appelons ça un pitch, parce qu'il y a un processus de sélection, j'imagine.
Oui. Ah, oui.
Oui.
C'était quoi votre pitch? C'était quoi vos arguments de vente?
Bon, on était vraiment sur... la charge mentale, le développement durable, puis derrière, la vision, on n'était pas encore trop là. C'est marrant, quand on regarde avec le recul, on était quand même dans le pratico-pratique. Il fallait expliquer qu'il y avait un marché qui était immense et qui n'était pas du tout comblé. Et ça, c'était à peu près ça. Oh, c'était quoi, 2 minutes peut-être? C'était pas un gros pitch non plus.
Trois minutes,
oui. Ouais. Ouais. Mais c'était pas très élaboré.
Mais ça devait être très de base. Et, ouais. Puis c'est drôle, avec le recul, justement, HEC nous apprend à bien pitcher. Comment on parle de son projet, c'est quoi l'ordre, c'est quoi les étapes qu'on doit passer au travers. Puis maintenant, ben, on s'est vraiment pitché, mais dans le temps, c'était,
okay.
On y allait comme ça, on improvisait.
À la bonne franquette.
Puis dans votre pitch initial, la dimension écologie, ou, ouais. Faisais-tu partie de votre pitch? Oui. Ou
c'était central.
Oui, okay. C'était central.
Ouais. Ça a toujours été central, en fait.
Okay. Parce qu'au début, tu m'as dit, ça commençait avec la charge... mental de ce que c'est une corvée de lessive.
Oui.
Puis au fur et à mesure que vous avez fouillé, fait de la recherche, vous êtes aperçu, mais il y a une opportunité pour avoir un impact. C'est comme ça que ça s'est produit.
C'est ça, parce qu'à un moment donné, moi, je me disais, on veut se débarrasser de la corvée de lavage. On s'entend que si on monte une entreprise là-dedans, on va récupérer la corvée de lavage des autres. Est-ce qu'on veut vraiment juste aider des gens à travailler peut-être plus parce qu'ils n'ont pas leur lavage à faire? Ça ne me rejoignait pas beaucoup.
Donc, maintenant, je pense que quand on débute une entreprise, ça doit avoir un impact environnemental. Il faut okay. penser à ça maintenant.
Okay.
Puis, c'est ça qui nous a animés. Après, quand on l'abordait sous l'angle de l'environnement, on voyait qu'il n'y avait pas trop de retour, on va dire, devant. Là, les gens n'étaient pas tant animés par ça. Donc, on l'abordait sous l'angle de la simplicité, vraiment de la diminution de la charge mentale. Puis là, ça parlait aux gens. Puis on s'est dit, bon, on était un peu déçus. Nous, ce qu'on amène, c'est vraiment... ça a un gros impact environnemental, mais bon, finalement, c'est un bénéfice collatéral.
OK. OK. Puis là, quand vous avez fait le saut, là on part cette entreprise-là, comment la famille a réagi? C'était quoi le...
On a été soutenus. Ouais, on a eu beaucoup, en fait, au début, même financièrement, on a eu du love money de la famille.
Il faudrait que tu expliques ce que c'est du love money. C'est pas tout le monde qui sait ce que c'est.
c'est comme de l'argent de cœur, en fait, okay. Finalement. C'est la famille, c'est dit, OK, on va te soutenir là-dedans. Puis, il y a des virements en euros qui sont rentrés. Et puis, non, ça nous a aidés. Ça nous a aidés dans l'apport. Ça a aidé à aller de l'avant avec les banques aussi, parce qu'on a été financé par... On a quatre banques, en fait.
OK.
Donc, parce que comme on était justement incubé au sein de la base, on avait des raccourcis pour aller chez Futurpreneur, pour aller auprès de la BDC. Donc, on a pu aller chercher des financements, puis aussi auprès de la MRC Thérèse de Blainville, puisque c'est local, on est à Beaubriand, et des jardins, on a entendu.
OK. Puis, de faire partie, si je comprends bien ce que tu me dis, de faire partie d'un incubateur ou d'un accélérateur, ça te met en meilleure posture pour obtenir un prêt, c'est vrai?
Oui, assurément. C'est parce que le réseau, c'est tout. C'est la base. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit à la base. On a la chance de côtoyer très souvent Robert Dotton, l'ancien président de RONA. Et il nous le dit souvent, là, le réseau, c'est tout. Et effectivement, c'est rassurant pour un établissement bancaire de savoir que vous êtes incubé, puis maintenant accéléré. Donc, ça ouvre des portes.
Puis quand Robert Dotton dit ça, le réseau, c'est tout, c'est quoi la signification de ça? Là, on comprend qu'il y a l'aspect financier, mais y a-t-il d'autres éléments cette vision, dans cette...
Oui, c'est parce que, tu sais, entourez-vous de gens qui vous dépassent quelque part. C'est nous, on a notre idée, puis c'est aussi ça qu'on voit au sein de l'incubateur. C'est-à-dire qu'on nous met en face de nous des entrepreneurs qui ont réussi, des gens qui sont partis de zéro, puis qui ont bâti, c'est pas toujours des empires, on va dire, mais des grosses structures qu'ils ont pu vendre. Et ils nous conseillent. T'sais. Donc, ça nous a beaucoup aidé dans tout le plan d'affaires pour structurer un peu tout ça. Et puis, aussi au niveau... c'est ça. C'est principalement des entrepreneurs qui nous ont accompagnés. Puis beaucoup de mise en relation auprès de nos clients. Ça va quand même beaucoup plus vite quand on a quelqu'un qui vous ouvre une porte.
OK. Puis, en termes de... là, vous concentrez... Vous vous êtes concentré au début sur du B2B, c'est
oui.
ça? C'est-à-dire des restaurants, des hôtels, des cliniques, toute opération qui doit faire de la lessive.
Oui.
Là, vous commencez à faire du B2C.
Oui.
Puis là, la publicité se fait. Puis si on avait regardé le profil type du client qui ça ressemble à quoi, là?
C'est nous.
c'est le couple professionnel hyper occupé.
Avec enfants, c'est sûr que quand on a des enfants, il y a plus de lavage, mais même les couples qui sont très occupés, par exemple, deux avocats, ils sont pris dans le travail, ils n'ont peut-être pas le temps là, de gérer leur corps de lavage.
Là. OK. Fait que c'est ce type de clientèle-là. Puis là, vous les rejoignez à travers les réseaux sociaux.
Tout à fait.
OK. Mm-hmm. Intéressant.
Ou leur employeur.
J'ai lu également que certains de vos clients, ce sont des employeurs.
Tout à fait.
Puis ils offrent ce service-là à leurs employés comme un bénéfice quelconque, c'est ça?
Oui. C'est toujours, tu sais, comment être un bon employeur, comment attirer, comment garder ses employés. Bon, ça joue automatiquement sur les avantages sociaux et la diminution de la charge mentale des employés. C'est quand même c'est pas mal. Oh, non, mais il y a des employeurs qui payent effectivement pour leurs employés, c'est très apprécié.
Là, on va aller à la pause. On va revenir dans deux minutes. Puis là, on va parler plus en détail de l'encadrement, support, l'accompagnement de la base entrepreneuriale du HEC Montréal dans le programme Entreprise, parce qu'ils ont plusieurs programmes. Là, je serais curieux de voir pourquoi vous êtes rentré dans ce programme-là particulier versus, je ne sais pas moi, le parcours Rémi Marcoux qui est de l'accélération, tout ça. Fait qu'on va revenir pour en parler de tout ça.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Commandeur, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
CIBL 101.5, Montréal.
Nous sommes de retour avec Jessica Lahaye et Sébastien Témoin, cofondateurs de la start-up Oh My Low, dont la mission est de transformer l'entretien de textiles en engageant la transition vers des solutions de nettoyage éco-responsables et durables. Notez que tous les épisodes d'Intention Inc. sont disponibles en réécoute sur vos plateformes balado préférées, Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Rebonjour Sébastien et Jessica. Parlons maintenant plus en détail de l'accompagnement que vous avez reçu de la base entrepreneuriale du HEC Montréal. Vous étiez dans le programme Entreprisme, qui est un programme d'incubation, si je comprends bien, pas d'accélération, mais d'incubation.
Exactement.
Pourquoi dans ce programme-là en particulier, est-ce que c'est vous qui avez sélectionné ou est-ce que c'est la base qui vous a dit on vous voit dans ce programme?
Bien, en fait, quand on dépose une candidature, on a le choix de sélectionner le programme qu'on veut. Donc, il y a soit Rémi et Marcoux, Entreprisme, Éclosion.
Puis l'accélérateur,
ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'eux, ils peuvent rediriger si jamais ils pensent que notre projet, bien, finalement, est plus technologique. Rediriger vers un autre programme. Donc, nous, on a appliqué pour Entreprisme parce qu'on avait un projet à impact. Donc, Entreprisme, c'est vraiment pour un impact environnemental ou social. Donc, on a appliqué directement. Okay. Puis, on est resté dans cette catégorie-là parce que c'est ça qu'on répondait.
Puis, pouvez-vous décrire le programme? Vous embarquez dans ce programme? Je crois que vous devez vous commettre à un certain nombre d'heures par semaine.
Oui, oui. Entreprisme, c'est vraiment un programme qui est à temps plein, à proprement dit. Puis, c'est à l'implication de 3 jours semaine. Donc, il y a une trame à impact social qui est donnée. Puis, c'est environnemental et social. Puis, c'est vraiment pour rediriger le modèle d'affaires, mais le revoir vraiment pour qu'il y ait un impact social et environnemental.
Okay.
Fait que c'est pas le business model qu'on connaît tous. Il y a vraiment une trame qui est plus
à haut impact environnemental.
Ouais, exactement. Okay. Exactement. Puis,
Ouais, en fait, c'est qu'on a aussi accès à une multitude d'ateliers. Là. C'est comme un micro-MBA. Là. On refait ça. Là. Puis on passe au travers de toutes les étapes auxquelles on devrait s'interroger quand on est en train de construire son plan d'affaires. Donc, que ce soit du marketing, que ce soit de la finance, tout le volet légal, de comptabilité, on passe au travers de tout ça. Comment regarder le marché, l'expérience client. On a des gens disponibles pour nous accompagner. C'est assez incroyable.
Oui. Puis, ils ne forment pas juste pour l'entreprise, c'est vraiment même former l'entrepreneur. Donc, comment on est un bon entrepreneur.
OK. Fait que c'est le savoir-être dont ils parlent, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Puis j'ai entendu dire aussi, comme par exemple, dans des trucs qu'ils font avec vous, c'est que ça vous prend un site Internet, puis ça vous prend un site Internet comme là.
En fait,
peu importe ce que c'est, mais il faut que ça prenne un site Internet.
Ça, c'est l'avantage d'être dans un incubateur, c'est qu'ils donnent des devoirs. Puis là, on est rentré dans un atelier de marketing, puis l'intervenant nous dit, si dans 2 semaines, vous n'avez pas votre site web, vous ne rentrez pas.
Okay.
Donc, nous, on n'a pas le choix de l'autre côté d'aller travailler, puis de dire, on va faire au moins... une landing page juste pour avoir un petit quelque chose là, si on va sur Internet et qu'on puisse nous voir. Donc, nous pousse.
C'est qu'on est des perfectionnistes, donc on procrastinait tout le temps avec le site web.
Okay.
Donc, à un moment, il a fallu que quelqu'un nous réveille.
OK. Fait que vous allez faire une landing page.
Ouais.
Même si vous n'avez pas de service, tarification, peu importe, faites une landing page, vous allez le publier quelque part. Il y a des gens qui vont le visiter, ils ne sauront pas exactement ce que c'est, mais au moins, vous avez fait l'effort, l'engagement d'avoir fait une démarche dans ce sens-là. Puis ça vous force à passer aux prochaines étapes, j'imagine, c'est
ça? Oui, puis on a eu 150 inscriptions sur liste d'attente. On a une base de départ.
Oui.
Ça nous a beaucoup aidé, mais à un moment, il fallait qu'on passe le le perfectionnisme, en fait. Okay. Ça, c'est notre défi.
Puis quand vous êtes rentré là, dans ce moule-là, l'aspect environnemental, était-tu vraiment pas fini ou c'est des gens qui vous ont challengé? Il faut que vous alliez plus loin là-dedans. Il faut que ça soit beaucoup plus présent dans votre positionnement où vous l'aviez déjà fait, ce travail.
Oui, oui. Ben, en fait, ça vient aussi par la technologie qu'on a choisie. Enfin, c'était déjà bien ancré. On a pu travailler sur le marché, la façon de présenter les choses, la distribution, comment aborder une entreprise, le pitch, tout ce volet-là qu'on a fait. Okay. Parce que le volet environnemental, c'est pas qu'il l'aborde pas, il l'aborde avec beaucoup de startups. Il y a des trames complètes, en fait, avec des cours on va passer tous les aspects du volet développement durable. Mais nous, il était déjà tellement prononcé et par notre technologie déjà. Là,
que fait que vous étiez des premiers de classe, c'est ça, non?
on va dire ça.
Coucou, vous aviez déjà fait un bon bout de chemin au niveau de votre modèle d'affaires. Puis vous aviez une bonne idée de où vous allez. Puis les intervenants, c'est qui? C'est les profs? C'est des gens d'affaires? C'est des entrepreneurs? C'est quoi?
Toutes ces réponses.
OK. Mm-hmm. Okay.
Ouais. Puis ils sont triés sur le volet. Là. Non, c'est des pointures. Là. Franchement, il y a des fois où on se dit comme... c'est souvent, en fait, où on se dit, on a vraiment de la chance là, d'être... on ne pourrait pas les avoir ni sur notre comité aviseur, on ne pourrait pas les payer non plus. Au début, on n'a pas de ressources, mais on a besoin de leur expertise. Donc là, ils nous le mettent bénévolement à disposition.
Donnez-moi un exemple, mais pas Robert Dutton, quelqu'un d'autre. Vous a vraiment impressionné, qui a dit, waouh, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Quand on travaille avec quelqu'un comme Sylvain Amoros, là, qui va vraiment vous challenger, il a une approche... un peu rentre dedans, là, qui vient complètement vous challenger.
Ça, pour le bénéfice de l'auditeur, c'est qui ça, M. Moreau, Amoros?
Amoros, c'est... j'ai pas tout son pedigree en tête, là, mais il a monté en fait des entreprises qui ont été vendues à Accenture, qui travaillent vraiment dans tout ce qui est marketing numérique, mais qui était un des pionniers au Québec dans ce domaine-là, et qui aujourd'hui est responsable de la chaire numérique d'HEC, et qui, on l'a vu la semaine dernière... On s'écrit souvent, on le revoit, parce que chaque mois, en fait, on a accès aux entrepreneurs en résidence. Donc, vous pouvez booker une heure avec la star de son domaine.
Okay.
Donc, nous, on bookait souvent Sylvain Amoros et on continue. Et c'est quelqu'un qui nous a énormément poussé et amené à avoir une meilleure culture numérique. Parce que nous, Jess et moi, médias sociaux, on est plus observateurs que créateurs.
Un peu comme moi.
Mais puis, ça nous a poussé à ça. Et c'est lui qui nous a dit à un moment, vous ne rentrez pas dans mon cours si vous n'avez pas un site web. Bon, OK, on va y aller. Mais c'est tout le temps ça, en fait. On rencontre ce genre de personnages, quelque part, qui nous poussent à aller beaucoup plus loin.
Donnez-moi un exemple d'un conseil que cette personne-là vous a donné qui avait vraiment fait la différence dans votre entreprise. Là. Que vous avez dit, ça, là, c'est une perle, là.
Quand on se dit OK, on va partir sur le marché des particuliers, puis qui vous dit non.
C'est pas une bonne idée.
Non, c'est pas ça que vous allez faire. Non, mais tu sais, c'est comme. Puis il est quand même derrière. Il y a quand même un raisonnement. Mais c'est parce que nous, on arrive avec notre pensée, tu sais, ça va être facile. C'est sûr qu'on est attendu quelque part. Puis il dit non, ça se passe pas comme ça, le marché des particuliers. Donc je vais vous expliquer, il y a une trame, il y a une structure à
avoir. Mais il était pas con, par contre. C'était les étapes, c'était ça?
Oui, c'est ça.
Commencer avec du B2B, après ça, c'est le B2C, c'est ça?
Parce que moi, à un moment, je me dis, si on va mettre 5 000, 10 000 par mois dans Meta, puis ça va bouger. Non, c'est pas du tout comme ça, c'est que vous allez surtout gaspiller de l'argent. Donc c'est des personnes, puis qu'on écoute aussi. Ils ont cette stature qui permet de dire... c'est pas tout à fait ça, puis on va l'écouter. Donc,
c'est ça qu'on veut aussi. Ouais. Honnêtement, c'est ça qu'on va chercher. Nous, on arrive avec notre beau petit plan, puis eux, ils arrivent en disant non, c'est n'importe quoi, on déchire ça, puis on recommence. Puis ça brasse la cage un peu, mais c'est ça qu'on a besoin, en fait. Okay. Parce que nous, on voit pas toujours les angles morts. Là, on a le nez un petit peu trop centré sur notre...
Mais in fine, on fait ce qu'on veut. Là. C'est juste que nous, on écoute. On est là pour apprendre aussi.
Il y a une longue feuille de route.
C'est ça.
En parlant d'écouter, on est rendu à la pause musicale. Le premier choix que vous avez fait, que je ne connaissais pas, mais j'ai adoré, ça s'appelle Love and Tendresse de Eddie Depreto.
Oui.
Alors, c'est un français, je crois, j'imagine.
Tout à fait.
Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Moi, je... C'est parce que Edith de Préto, c'est quelqu'un qui écrit des textes, en fait. Moi, ça, qui résonne en moi, c'est comme... C'est un mélange de pop, hip-hop, là. C'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Ben, on va pouvoir l'écouter. Puis, c'est sa voix. Elle est sur une fréquence qui me fait du bien. Donc, c'est quelqu'un que j'écoute en permanence. Et ça, c'est une de ses dernières chansons que j'adore. Donc, non, c'est pour ça. Ouais.
Il a une super belle voix.
Ah, très belle.
Puis... comme lui, toi aussi, tu as une super belle plume, j'imagine. C'est, faut pas, en tout cas, oui, votre site Internet très est plume. Très étoffé.
Merci.
Alors, on va aller écouter Love and Tendresse de Eddie de Préto.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain, ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour, un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse.
Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse.
Bonjour, nous sommes de retour avec Jessica Lahaye et Sébastien Témoin, les cofondateurs de Oh My Load, une compagnie qui offre des services de, appelons ça, de buanderie éco-responsable. Également, ça permet d'améliorer la durabilité des vêtements qu'on fait laver, qu'on fait nettoyer. Rebonjour. Parlons un peu plus de votre entreprise Oh My Load. Ça fonctionne comment? Moi, je suis un consommateur, je suis intéressé à vos services. On commence comment? C'est quoi les étapes pour faire affaire avec votre entreprise?
La première étape, c'est de télécharger notre application. Donc, nous, contrairement au nettoyeur à sec où il faut aller déposer les vêtements, on n'a pas de comptoir, donc c'est vraiment via votre téléphone ou via un site web. Vous pouvez venir faire votre commande. Donc, vous allez sélectionner le créneau de votre collecte, l'heure, puis de la livraison aussi. Donc, nous, on vient chercher à la maison les vêtements, on amène ça à notre atelier, on lave, on sèche, on plie, puis on vous ramène le tout, c'est prêt à ranger 48 heures plus tard.
Fait que c'est plié.
C'est plié.
C'est plié. Ça, c'est fantastique.
Évidemment.
Je pense à le pire aspect de, d'une corvée de l'avant, de plier.
Oui.
Et puis, ça a l'air de quoi? La c'est qui vient chercher ça? C'est vous? Vous venez à la maison?
Ouais, c'est moi.
C'est toi?
Au début, on est un peu... On fait tout, puis on est au four et au moulin en même temps.
Ouais. Donc, en anglais, on dit c'est Jack of all trades, master of none.
C'est ça. Ben, en fait, non, c'est principalement moi qui fais les livraisons. Donc, on vient en véhicule électrique tout chercher. Pour l'instant, sur... La Rive-Nord, Laval, un petit peu Montréal. On commence à avoir beaucoup de demandes à Montréal, mais majoritairement sur la Rive-Nord de Montréal pour l'instant.
Puis en termes de tarification, ça fonctionne comment?
Bien, en fait, nous, on a voulu introduire le sac, en fait. Donc, c'est vraiment une unité. Un sac, c'est 44,95. C'est lavé, séché, plié. Puis dans ça, c'est compris la livraison.
OK. Fait que c'est ça le... Puis, ça prend combien de temps pour avoir son sac? Avec
48 heures.
48 heures. Alors, oui. Ça, c'est bien aussi. Puis, selon vous, c'est quoi les à date, là, les plus grandes réalisations de Oh My Load?
C'est qu'en fait, il y a quand même une accélération qui est quand même présente. Là. On a juste 5 mois, là, puis on a quand même rentré 13 sites hôteliers. Bon, le Grand Costumier, ça a été quand même quelque chose de super intéressant à rentrer aussi. Donc, il y a tout de suite eu de la crédibilité par rapport à nos services. Quand je disais tout à l'heure, on est des bébés, mais en fait, c'est juste pour dire, on débute. Mais tout de suite, on a eu de la clientèle qui était réceptive en face, notamment pour tout ce qui est entreprise sur le volet de développement durable. On a comme frappé quelque chose là, il y a vraiment un manque dans cette industrie-là, dans l'industrie de la blanchisserie, en fait. Donc, ça résonne dans les entreprises. Donc, ça a été tout de suite une belle réussite.
Intéressant. Ouais. Parce qu'on on a passé en entrevue une femme qui s'appelle Anne-Josée Lacaire récemment. Elle est à la tête d'une entreprise qui s'appelle... En fait, c'est une OBNL. C'est une, en anglais, on dit un laboratoire d'idées, ouais, au niveau des réductions à des gaz à effet de serre. Fait qu'elle travaille beaucoup au niveau des entreprises. Puis on va mettre ça en onde bientôt. Mais tu sais, c'est vraiment tout ce qu'une entreprise peut faire pour réduire son impact. Mais on n'a pas parlé de ça, tu sais, parce qu'il y aurait quoi à faire avec les employés, une façon de sensibiliser les employés à l'environnement.
Tout à fait.
C'est intéressant. Fait que les gens quand on est dans le B2B, les gens que vous avez approchés ou qui vous ont approchés, c'est vraiment dans une perspective d'économie durable, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. Oui, parce que vous prenez un site hôtelier, par exemple, ils vont avoir travaillé sur le gel douche, sur le shampoing, il y a, ouais, le distributeur, la petite carte qui coupe la lumière automatiquement quand vous quittez la chambre, mais sur les draps, il n'y a rien qui est fait. Donc, on a amené cette solution-là qui leur permet vraiment, tu sais, on réduit les quantités d'eau, on récupère les microparticules de plastique, c'est lessive biodégradable, il n'y a pas de javel, parce que dans cette industrie-là, tout le monde javelise tout. Donc, nous, on est venu vraiment qu'une alternative qui résonnait en eux, là.
Alors, eux, dans leur publicité, oui, ils peuvent parler de ça, non?
Oui.
Versus toutes les autres mesures qu'ils mettent en place dans leur hôtel pour, oui, réduire. OK, c'est
exactement
intéressant.
En fin d'année, pour les clients corporatifs, on leur remet un rapport d'impact. Donc, on est capable de quantifier les économies d'eau, les microparticules de plastique. Donc, on leur remet.
Wow!
Donc, pour leur rapport RSE, c'est au top.
C'est une bonne idée, ça.
Oui.
C'est vous autres qui avez pensé à cette idée-là ou vous avez peut-être challengé là, à la base? Vous avez dit,
non,
ah, ça
pour prend... ça, on n'a pas été challengé.
puis le grand costumier, on en a parlé un peu, mais comment vous êtes allé chercher ça, ce client-là?
Faut taper à la porte,
ah ouais?
Et insister.
Oui.
Okay.
Ouais. Mais ils sont aussi à la recherche puis de partenaires en matière de... En fait, comme beaucoup d'entreprises maintenant. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont déjà un partenaire. Puis nous, on arrive avec une alternative éventuellement plus écologique. Donc, il y a de l'intérêt pour ça, là.
OK. Ouais. Puis, à long terme, si on regarde Oh My Load dans 5, 10, 15 ans, dans vos rêves les plus fous, ça ressemble à quoi?
Ça va être des usines quand même. Là, on appelle ça un atelier. Un jour, je pense qu'on appellera ça... Ouais. Une usine,
okay.
Puis dupliquer à la grandeur du Canada éventuellement. Là. Il y a un besoin qui est général, en fait.
Okay.
C'est pas juste lié au Québec. En fait, la réglementation liée au perchloroéthylène, elle est la même dans tout le Canada. Donc non, il y a beaucoup à faire. Donc, on pense sortir...
Mais ça serait-tu comme une usine par grande ville? C'est une usine à Toronto? Une usine à... Calgary,
ouais, dans les grandes villes, effectivement. Ouais. Parce que c'est lié à un territoire. On peut pas. Non, aujourd'hui, on ne dessert pas Québec. Demain, on devait desservir Québec. Il faut reconstruire une usine ou un atelier là-bas. Okay. C'est forcément, à partir du moment où on fait de la quête et de la livraison, c'est quand même très lié au territoire. Donc, puis il y a beaucoup de logistique aussi. Donc, oui, il faut dupliquer.
OK. Ouais. Puis, des concurrents, il y en existe-t-il dans le marché pour vous ou...
On est toujours en concurrence avec la laveuse. Ça, c'est notre c'est le plus gros concurrent. Mais oui, il y a des réseaux de nettoyeurs qui. Il y a de la concurrence. Maintenant, on amène quand même. Nous, on couvre 100% du spectre textile, ce qui n'est pas le cas de grand monde.
Okay.
Donc, pour l'instant, plus le volet de développement durable.
Puis, si le gouvernement d'un matin, le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois décidait de. C'est terminé les solvants chez les nettoyeurs.
Ça ferait mal.
Quand on regarde en France, la moitié des nettoyeurs sont morts, en fait, avec l'arrêt du perchloroéthylène. Donc, parce qu'il faut racheter de l'équipement, en fait.
Okay.
Donc, puis c'est plutôt une industrie où les gens sont en fin de carrière un peu quand même. Là. C'est un peu vieillissant. Donc, il y en aurait la moitié qui tomberait. Là. Mais en même temps, on a quand même beaucoup de nettoyeurs au Québec. Hein.
Okay.
Par habitant, ouais, c'est quand même. Il y en a beaucoup.
C'est énorme. Ouais. Et puis, en termes de... Si vous aviez à chiffrer, mettons juste le Canada, là, ça représenterait quoi, ça, comme marché potentiel?
C'est plusieurs milliards. Parce que, en fait, là, c'est sûr que là, on est comme face à un Everest, là, où y a 50 trajets, en fait, pour monter au sommet. L'idée, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va aller plutôt sur un marché B2B? Est-ce qu'on va faire beaucoup plus de dépôts en entreprise? Ou est-ce qu'on va vraiment s'attaquer au marché le plus difficile, à la grandeur, qui est le marché du particulier, donc du consommateur final? Donc, le marché, c'est quand même assez immense.
OK.
Oui, c'est ça. Mais donc, là, on est vraiment dans notre réflexion. On pivote.
OK. Là, on arrive pas mal à la fin de notre rencontre, mais on pose tout le temps la même question à nos entrepreneurs invités. Puis je vais vous la poser. Selon vous, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient?
Selon moi, on est. On est entrepreneur. C'est quelque chose qui vit à l'intérieur, qui s'exprime de temps en temps, puis à un moment donné, il y a un appel.
OK.
Puis on n'a pas le choix de l'écouter.
OK.
Mais moi, la différence que je fais, c'est que je pense qu'on peut le devenir. Mais sauf que le fait d'être né entrepreneur va faire en sorte que dans les moments difficiles, on va avoir plus de résilience. Parce que ça va être dur.
OK.
Ouais, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Premièrement, moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de foncer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de gens qui ont des idées et qui ne les mettent pas en œuvre. Là, c'est tellement dommage. Puis justement, il y a des incubateurs qui sont là pour ça, pour faire germer l'idée.
En fait, c'était ma dernière question.
Oh, mince.
Si vous aviez à offrir trois conseils à quelqu'un qui pense se lancer en affaires, ça serait quoi?
D'y aller. De ne pas oublier que ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on pense.
OK.
Ouais, il y aura des moments de solitude parce qu'on arrive en se disant, moi, j'ai l'idée du siècle et tout le monde m'attend.
OK. Non. C'est pas ce qu'on voit au dragon, c'est ça?
Non. mais c'est ça. Ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, l'aventure, elle est incroyable.
OK. Ouais. Puis, tu as parlé d'accompagnement. Et toi, Jessica, si tu avais un troisième conseil à donner, ça serait quoi?
Il faut faire preuve de résilience. Ça, c'est vraiment... À tous les jours, on peut vivre des petits deuils. Hein. Mais c'est sûr qu'il faut avoir les reins solides, il faut être fait fort. Puis il faut se dire, c'est pas grave, on se relève. Puis à chaque fois qu'il arrive un petit, une petite montagne russe d'émotions, c'est pas grave. Après, ça remonte. Puis.
Là, on arrive à la fin. Fait qu'il faut que je fasse mes remerciements. Fait que merci, Jessica.
Merci.
Merci, Sébastien Témoin, d'avoir généreusement accepté notre invitation à Intention Inc. Merci à Paul Viau, à la technique, recherche et la rédaction. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Nos épisodes, encore une fois, sont disponibles en format balado sur les supports les plus populaires. On se retrouve jeudi prochain à la même heure, de midi à 13h. Là, on va prendre votre deuxième choix musical. C'était Les étoiles filantes des Cowboys fringants. On a beaucoup entendu parler des Cowboys fringants. Pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Bien, en fait, on a 4 enfants, on a une vie très chargée, puis on aime ça l'écouter pour se rappeler en fait que c'est important de profiter de chaque moment parce que ça va vite. Puis j'ai ma fille qui a fêté ses 13 ans hier, puis c'est comme si hier était bébé encore, donc on profite.
Parfait. On s'en va aux étoiles filantes.
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Trait d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
Décadence. 3 heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end.
CIBL, au cœur de la décadence.
Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous!
CIBL 101.5, Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.